Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Radio Grand Ciel pour notre émission Histoire d'en savoir plus. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir dans le studio Aude, et c'est de mode dont il sera question. C'est une chose dont on ne parle pas souvent dans mes émissions ou sur cette antenne. Bonjour Aude.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça veut dire Aude? C'est un dieu du Nord?
Alors non, c'est vrai que en recherchant sur Internet, on peut retrouver des noms un petit peu mystiques, mais moi je ne me suis pas attaché à ça. En fin de compte, c'est un nom que j'ai créé, parce que je le trouvais complètement dynamique, avec une certaine résonance. On le retrouve aussi en bande dessinée manga d'ailleurs. Mm-hmm. Bon, moi, je suis pas une petite fille manga, mais je trouvais que ça sonnait bien. Et ce nom-là a été créé en 2000, quand il a fallu identifier les vêtements que je voulais faire. Parce que par la suite, c'est devenu une marque déposée.
Ça, j'allais vous le demander, vous voyez, je l'avais pris en note, parce qu'on a pu voir récemment à la librairie L'Esperluette quelques-unes de vos créations en tissu, et Dieu sait si c'est beau et impressionnant.
Merci.
Et je me demandais si justement vous aviez fait protéger notamment ce kimono incroyable, noir et noir.
Alors actuellement, le kimono n'est pas encore protégé, mais je l'ai pris en photo avec des dates, ce qui fait qu'il y a une date quand même de création, ce qui fait que bon, malgré tout, être copié, des fois c'est plutôt un honneur, malgré tout. Mais il n'est pas protégé. Mais j'ai eu une marque protégée.
Vous avez une marque protégée. Alors, vous disiez, j'ai créé ce nom, mais vous n'avez pas créé que ce nom, parce que vous êtes très, très créatif, en fait. Vous êtes un créateur dans énormément de domaines, puisque vous peignez, vous photographiez, vous avez des coups de cœur que vous déployez en exposition, et puis il y a la couture. Comment cela avait-il commencé ?
Alors, pour mon parcours un petit peu d'artiste, c'est vrai que à une époque, je me définais comme un artiste multimédia. Bon, c'est un petit peu de mode et de tendance, parce que bon, je suis issu des beaux-arts, après j'étais décorateur. Suite à ça, j'ai commencé à créer des cerfs-volants, à représenter la Guadeloupe à des concours internationaux, ce qui m'a amené justement à m'approcher de la couture, à rentrer dans des ateliers de voile, de voilerie sur les Antilles, et puis de créer des cerfs-volants avec des formes géométriques. Et je peignais dessus, donc je faisais voler l'art. Et par la suite, je suis rentré en métropole, comme on dit. Et puis, toujours à la recherche d'une expérience en création, tenté par la mode depuis de nombreuses années, mais je n'osais pas faire le pas parce que c'est un grand marathon quand même. Et d'un seul coup, j'ai plongé. Il y avait le passage à l'an 2000 et il y avait toute une émulation. Là, j'ai commencé, bien sûr, à faire un casting parce qu'il fallait trouver aussi les personnes pour porter les vêtements. Bien sûr, créer une collection. Donc là, comme c'était le passage en 2000, je suis tombé sur un truc complètement futuriste, techno, électro. Ça correspondait aussi à toute l'ambiance générale. Et puis, j'ai osé faire mon premier défilé. Quoi, dans la folie, il n'y a même pas eu un défilé. On en a fait 4 dans le week-end.
Ah oui.
Réglé comme du papier à musique. Ce qui fait qu'il y a eu quand même une accroche par rapport aux médias. La presse locale est venue. Bon article de presse, donc encourageant, parce qu'une semaine avant le défilé, je me suis dit, mais t'es fou.
Il y avait une certaine panique.
Oui, parce qu'il y a toute la mécanique de préparation, la musique, les mannequins, la scénographie, parce qu'en plus, on allait défiler dans un espace assez petit. Donc, moi, j'appelais ça des escadrilles. Les mannequins étaient obligés de sortir en escadrille avec des figures bien définies, pas se tromper. Le défilé était complètement chronométré. On avait coupé la musique vraiment en fonction de la scène, c'était un vrai spectacle. Donc 4 défilés, bonne presse. Et de là, je vais à Paris au salon du Wuznex, qui est un salon des nouvelles tendances, et qui regroupe des stylistes mondiales, avec une sélection assez pointue quand même. Moi, je franchis le pas, je cherche à rencontrer la responsable du salon, elle me reçoit, j'avais sorti mes photos sur du papier aluminium, un peu à la Paco Rabanne avec des rivets. Donc elle a dit « original », elle a vu les modèles, elle m'a dit « écoutez, vous avez l'esprit du salon, est-ce que vous ne voulez pas venir faire le salon ?» Bon, entre nous, je ne l'ai pas fait, c'était trop cher, mais
ah oui.
J'avais l'esprit. Donc ils m'ont demandé plusieurs années de suite de le faire, mais elle m'a complètement rassuré sur mon travail de styliste. Premier défilé, première photo avec des professionnels quand même en pointe, et ils m'invitent à faire un salon quand même assez renommé. Donc depuis, j'ai pas lâché, j'ai fait défilé sur défilé.
Ouais, donc vous avez déjà fait beaucoup de choses. Moi qui étais restée au premier costume, aux premières coutures que j'avais pu voir à l'Esperluette, en fait, il y a un passé derrière
non,
tout
y a,
ça.
Il y a déjà
pas
y a 15
une
ans.
Nouveauté.
15 ans de défilé.
Quand on écoute votre parcours, on s'aperçoit malgré tout que vous avez toujours été attiré par les arts, par les beaux-arts. Parce que décorateur, ça consiste en quoi ? Être décorateur ?
Bah, c'est l'embellissement de surface, c'est transformer des endroits. Moi, je refaisais aussi bien des restaurants que des intérieurs. Et à l'époque, c'était les années 80. Et puis, il y avait une grande tendance à tout ce qui était art mural, trompe-l'œil. C'était la folie, il y en avait partout, sur les chantiers, dans les appartements. Bon, surtout à Paris, bien sûr. Et là, j'ai pu travailler énormément sur des différents décors.
Donc c'était de la peinture. Pas seulement, mais c'était de la peinture.
Et puis aussi, j'étais arrivé à devenir quand même un petit peu maître d'œuvre. Parce que j'avais un premier contact avec un client, par exemple un restaurant. Et puis le type n'avait pas trop l'idée, donc moi je développais derrière. Il y avait le décor et j'allais des chaises jusqu'à la table, jusqu'à l'ensemble du restaurant.
Alors, à votre avis, ça vient d'où cet instinct de créateur ? Parce que vous créez tout de suite des nouveaux décors, des...
Alors, je pense que l'art, c'est un petit côté magique. Moi, je suis issu d'une famille, on était 5 enfants. Il y en a un qui est artiste.
Bon.
Alors, je ne veux pas dire qu'il y a une magie, mais je ne sais pas. Même moi, encore aujourd'hui, je me demande pourquoi moi.
Donc, vous êtes quand même un peu prédestiné à ce domaine de l'art.
Je pense que dans l'art, oui. Alors, je pense que tout le monde est artiste dans l'âme. Mais après, il faut vouloir en faire sa vie, son métier. C'est ça la différence. Moi, je connais des gens qui sont très artistes, mais qui ne feront jamais le pas d'essayer d'en faire leur métier.
Parce que vous, à chaque fois, vous avez essayé de monter la marche.
Voilà. J'ai fait des choses à côté complètement différentes, mais je suis toujours revenu vers l'art, vers la création.
Je suis assez fasciné par cette histoire de cerf-volant, parce que c'est toujours un peu magique, un cerf-volant.
Ah, c'est complètement magique, parce que... Bon, au départ, on a une vision d'enfance aussi. Moi, le jour où je me suis mis à faire un cerf-volant, je me suis dit, bon, t'as plus de 10 ans. Puis après, j'ai commencé à plonger dans des livres. Bon, faut reconnaître qu'aussi, les années 2004, il y a eu une grosse vague de cerf-volant en France. Il y a des festivals partout. Donc, moi, étant gentil, j'étais un petit peu éloigné, mais j'avais eu par la télé des informations. Donc, je me suis plongé sur les livres. Et puis, il y a eu une attirance. Et j'ai vu le pouvoir créatif du support. Et en plus, comme j'étais aux Antilles, il y avait la mer, le vent, il y avait les conditions idéales tous les jours, le soleil. Donc c'était parfait, quoi.
Mais quand même, vous m'avez dit tout à l'heure que vous les aviez peints. Donc c'était là encore une création très personnelle.
Ah oui, parce
que. Et de l'art, déjà.
C'est comme dans le vêtement, il y a un support. Bon, la toile, c'est une forme plane, à plat. Mais là, il y avait une question parfois de volume. Puis, on rentrait d'autres éléments. C'est-à-dire que vous avez le support à plat. Faut faire tenir la peinture. Faut trouver la bonne toile. Bon, moi, je travaille beaucoup sur des toiles de bateau du SPI. Très légères, de couleurs. Et puis après, faut assembler le tout. Et puis, bien régler son survolant pour qu'il puisse s'envoler. Donc, vous voyez, c'est un défi aussi.
C'est ce qui me frappe d'ailleurs dans ce que vous racontez. C'est qu'à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, vous maîtrisez la technique. Parce qu'un survolant, quand même.
Oui, faut quand même s'informer, il faut...
Savoir choisir la ficelle.
Voilà, surtout quand on est la ficelle, la toile, choisir le bon jour pour les faire voler. Tout ça, ça passe un petit peu comme le début de l'aviation, hein. Vous montez vos choses et vous les faites voler. Si ça part, c'est bon, si ça part pas, il y a un problème et on cherche, quoi.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces cerfs-volants ? Parce que c'est toujours un peu triste, un cerf-volant, c'est un petit peu mort quand ça ne vole pas.
Ils sont roulés.
Bon.
Ça prend pas de place. Et puis c'est vrai qu'après, comme j'étais beaucoup absorbé par la mode, même maintenant par la réalisation, la vidéo et autres, j'ai plus trop le temps, quoi. On peut pas être partout. Et vous voyez, la mode, c'est un aspirateur de temps. Il y a beaucoup de travail. En plus, moi, j'avais créé mon association Art Mode. Donc, en parallèle, il fallait créer le vêtement, faire les castings, s'occuper de la PAO, tout ce qui est l'imagerie pour annoncer les choses, les photos de mode. En fait, quoi, même à travers le côté autodidacte de la mode, j'ai fait 7 métiers. Donc si je rajoutais en plus le cerf-volant.
Et le métier de décorateur.
Et décorateur. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We
ties and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, c'est l'émission Histoire d'en savoir plus. Et aujourd'hui, on voudrait en savoir plus sur la mode, et particulièrement la mode créée par Odd, qui est dans notre studio aujourd'hui. Vous avez commencé comment à faire de la couture ? Faut choisir les tissus.
Alors, le...
Qu'est-ce qu'on fait en premier ?
Alors, si on... le point de départ, un peu comme toutes les créations, c'est le dessin. Donc déjà, il y a l'idée, la vision... Ça peut être une vision, on est inspiré par plein de choses, mais j'étais inspiré par le cinéma, par l'art, par la vie de tous les jours. Puis à un moment donné, il y a un petit détail qui vous inspire. Et là, derrière, il faut écrire un film. Moi, j'appelle ça un film. Donc, vous avez votre idée, l'idée de la collection, papier, crayon, traditionnel, et on commence à dessiner. Et on recherche. Et on essaye d'avoir une série de dessins un petit peu homogènes. Ce qui fait qu'après, en fin de compte, c'est un peu comme des portes qui s'ouvrent. L'idée ouvre sur le dessin va ouvrir sur le tissu, et là, on va chercher le tissu. Et après aussi, parce que moi, je travaillais toujours avec des parallèles, c'est-à-dire que j'ai l'idée, le dessin, je commence à dessiner, et en même temps, j'écoute la musique, parce qu'en plus, je crée la musique de mes défilés. Mmh. Sur ordinateur, je mixe.
Hein, Justement, vous parlez d'ordinateur. L'ordinateur n'intervient pas dans la création du vêtement.
Moi, je m'en servais pour la musique et pour les photos de mode.
Oui.
Hein, tout ce qui est PAO, Photoshop, pour retoucher les photos. Mais au point de départ, surtout, je travaillais avec le dessin et la musique que je crée. Alors, c'est-à-dire que la robe, par exemple, je choisis un exemple, c'est une robe. J'ai l'idée de la robe, telle couleur, telle chose. Je crée la musique en fonction de mon dessin.
C'est un tout.
Oui, c'est un tout. Tout se complète, c'est complémentaire. Et après... Quand vous avez fait des castings, et moi je travaillais avec différents mannequins régulièrement, vous arrivez même à projeter le mannequin dans la robe. Vous allez chercher votre tissu, vous regardez le tissu, et par magie vous dites « Ah, ça c'est pour Elena ». Vous en touchez un autre, vous voyez une autre couleur, parce qu'il y a le physique de la personne bien sûr, puis vous dites « Cette personne-là va porter avec élégance ce modèle ». Donc tout ça se met en place avec que des complémentaires.
Mais là, Odd, vous nous parlez de haute couture, parce que ça veut dire que ce sont des robes uniques.
Alors, moi, j'étais... c'est vrai que je me suis toujours affiché dans la mode créateur. Bon, j'ai été vendu à l'espace créateur des Halles. Bon, c'était un espace où il y avait plein de stylistes, avec Zulubette et tout. Donc, il faut avoir vraiment l'esprit, oui, limite haute couture et surtout original. Après, j'avais été vendu chez une styliste japonaise, créatrice. C'est pas la démarche de la création en industriel.
Non, bien sûr.
Il y a le styliste qui va rentrer dans un bureau d'études de style pour des marques. Alors, il va dessiner, ça part à l'usine. Mm-hmm. Moi, je n'étais pas du tout dans ce concept-là. C'était, je crée un modèle unique. En fait, quand, le modèle devient comme une œuvre d'art.
Néanmoins, il faut coudre malgré tout.
Alors,
vous avez eu une machine à coudre un jour ?
Alors, moi, j'ai acheté une machine. J'ai acheté une machine. Et puis, je me suis jeté à l'eau aussi. Donc, confronté au défi de pouvoir monter un vêtement. Alors, j'ai adapté une technique. Par contre, c'est que dans la couture, il y a la technique à plat. Il y a des gens, ils ne font pas de couture en volume. Vous voyez, Jean-Paul Gaultier, lui, il prend un volume, il coupe ses vêtements dessus. Et moi, j'ai travaillé comme ça. C'est peut-être plus facile. Puis, c'est une forme de liberté aussi. Donc, le vêtement un peu devient comme une carapace de sculpture. Bon, carapace, le mot est un peu fort parce que la fille, elle ne pourra pas bouger. Mais vous voyez ça, on modèle le vêtement. Et après, on le déplie et on voit où on doit coudre. Mais c'est toujours pareil, il y a des difficultés, faut tester, on perd beaucoup de temps, on n'a pas... Moi, j'étais un autodidacte, j'ai pas trop la technique. Et après, on trouve les astuces. Il faut que ça soit portable et il faut que ça puisse être monté. Et aussi, derrière, il y a le côté fabrication. Parce que des gens, moi, j'ai vu, j'ai donné des stages de couture, les gens dessinent des robes de princesse, tout ce que vous voulez, mais si on étudie bien la chose, je vais pas dire que c'est impossible de le monter, mais...
Il faut que ça reste réalisable.
Tout a des limites. Alors, moi, par rapport à ma démarche, par contre, de créateur, comme j'étais très inspiré par la création, plus par la création des styles japonais, dans l'ensemble, il y avait ma moto, Misiake, qui avait des vêtements très sculpture. Je suis plutôt allé vers des vêtements quand même très, très sobres.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on décide ce jour-là de faire des manches plutôt bouffantes, de faire une ceinture assez large,
bah, y a le,
un
déjà
col
le,
très échancré.
Il y a le sujet.
Le sujet, c'est voilà. Le mannequin ou
non,
c'est
non,
l'air
le sujet de la collection, parce que quand je pars par l'improviste, c'est-à-dire que je me définis un sujet, j'ai une idée par rapport à un sujet et je le suis. Bon, une époque, j'ai fait une collection, par exemple, Alaska. Donc il y avait des fausses fourrures, on avait trouvé des chiens esquimaux, des bijoux un petit peu métal, on avait défilé dans un parking, parce que aussi il y a le lieu de défilé aussi qui peut influencer. Moi, chaque fois que j'ai fait une collection, en général, j'essaie de savoir où je vais faire passer la collection en défilé. Et même une fois, on avait fait un défilé à la piscine de Chartres, donc automatiquement, dans les vêtements, hein, les gens défilaient autour du bassin, et ben, il y avait du bleu, il y avait un côté voyage, il y avait le côté poétique, le rêve de plage, le soleil. Donc après, vous voyez, tout ça vous guide quand même. Hein.
Alors ça, c'est le côté effectivement créateur, création, toujours, artiste. Voilà. Mais il doit arriver un moment où vous devez avoir besoin d'une structure. Ou d'une entreprise, voyons. Finalement.
Alors, moi, j'ai créé une entreprise en tant que créateur en micro. Hein. Et puis, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de prototypes, moi, avec ma machine, par rapport à un facteur de fabrication. Parce que vous faites votre modèle à l'atelier, après, vous allez dans un atelier. Et pour connaître le prix de fabrication, parce que fabriquer un vêtement unique, bon, pourquoi pas. Quand vous avez tout de suite l'impératif de vous dire qu'il faut en fabriquer 3-4 de suite. Moi, ce qui ne m'intéresse pas plus que ça, ce qui m'intéresse, c'est de dessiner le modèle, faire le prototype et de le mettre en couture.
C'est la haute couture.
Voilà. Donc, il faut connaître le temps de fabrication. Ça, c'est vraiment technique. C'est parce que la couturière à qui vous apportez le prototype le démonte et doit le remonter. Elle met le réveil en route et elle vous dit, ça fait tant parce que ça prend tant de temps à monter. Donc, tout compte, le fil, l'aiguille, l'enfilage, tout est calculé précisément. Et là, vous sort le prix.
Le prix du tissu aussi, j'imagine.
Bon, ça, en plus, et de l'étiquette. Parce qu'on est obligé, si vous voulez vendre le vêtement, moi j'ai vendu mes vêtements, il y a aussi le prix de l'étiquette. Et puis, bah, sur ce qui se rajoute derrière, c'est toute la com pour pouvoir faire parler de soi. Quoi, hein. Mais par contre, il y a un fait réel aujourd'hui, c'est que fabriquer en France, c'est quand même très difficile. Il y a des artisans couturiers. Moi, je suis pas artisan. J'étais pas inscrit à la même chambre de métier. J'étais obligé de passer par des ateliers. Bon, moi, ça m'intéressait parce que ce qui m'intéressait le plus, c'était de dessiner, de faire fabriquer. Mais il y a un savoir-faire qui s'est perdu. Il n'y a plus beaucoup d'ateliers en France. Les usines qui étaient dans le Nord ont disparu. Les autres sont toutes parties à l'étranger. Donc, ce qui veut dire que le styliste, aujourd'hui, quand il veut démarrer, c'est quand même très difficile. S'il n'a pas une mise de fonds conséquente, il est obligé de prendre l'avion, d'aller dans une usine. Et là, c'est 1000 modèles. C'est plus le même métier. Donc moi, j'avais réussi à trouver un atelier, d'ailleurs, qui est un atelier d'insertion à Paris, avec quelqu'un qui gérait cet atelier, qui avait 80 ans, mais qui avait 50 ans de couture, qui avait tout fait. Je faisais mon petit dessin dans le train d'un kawaii, par exemple. J'arrivais, je laissais l'atelier, mon kawaii, je le voyais. Ils avaient une compétence complètement dingue. Quoi.
Qui est importante et qui ne devrait pas se perdre.
Alors, il y a une transmission. Vous voyez, à Chartres, là, bon, kimono dont vous parliez, je l'ai fait faire, j'ai travaillé avec la dame à la licorne.
Ah oui.
Hein, qui est un atelier fabuleux, là, qui est à Chartres.
Bien sûr.
Qui travaille beaucoup avec les musées, qui font de la restauration. Il y a des stylistes, des couturières, vraiment avec un niveau conséquent. Il y a un styliste qui a une expérience aussi énorme. Et ce qui m'a permis de pouvoir, là, justement, même redémarrer quelques modèles en pièces uniques.
Vous écoutez Radio Grand Ciel sur 106.8 à Chartres. First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees. Alone in the dark, I was
was blind to your game. You fired a shot in my heart. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on.
Nous recevons donc Odd qui nous a parlé de tout cet aspect création, mais il arrive un moment où il faut peut-être vendre ce qu'on a créé.
Alors, ça c'est le pas, il faut emboîter. Alors, moi au départ, je faisais ce qu'on appelle du dépôt-vente. Hein, ça se faisait d'ailleurs même pour les peintres, les artistes, ils déposent leur tableau, le type de la galerie vend le tableau, vous touchez un pourcentage. Moi au début, j'ai démarré comme ça, mais par contre, au niveau du pourcentage, c'était tellement énorme que lorsque j'avais payer la couture, le tissu, les étiquettes, plus les charges, je ne pouvais pas avancer. Donc à un moment donné, le pas a été franchi, j'ai monté une boutique à Chartres. Créateur, mais là c'était un petit peu osé, parce que faut reconnaître qu'à Chartres, les boutiques de créateurs de vêtements, il y en a rarement eu. Moi, bon, j'ai suivi mon idée, je l'ai fait. J'ai eu la chance de trouver une petite boutique. Et en parallèle, j'ai vendu quand même du prêt-à-porter pour essayer d'équilibrer. Bon, la conjoncture étant, c'était les années 2008, il y a eu, avec toute la concurrence, en fin de compte, la mode créateur, j'ai réussi à vendre, mais le prêt-à-porter, à un moment, je ne vendais plus. Donc, il a fallu que je referme boutique. Mm-hmm. Et je pense qu'il faut être complètement réaliste, la mode créateur, c'est les capitales. Même en France, des fois, on me dit, mais pourquoi tu ne vas pas à Toulouse, à Marseille ou autre ? Je dis, non, les capitales, c'est Londres, Paris, Tokyo, parce qu'il y a une clientèle. Il y a un état d'esprit, il y a une émulation. Ce qui ne veut pas dire que les gens en province n'aiment pas la mode créateur. Mais ils ne sont pas habitués. Moi, j'ai vu mon magasin, des fois, les femmes n'osaient même pas rentrer. Elles disaient d'avance, ce n'est pas pour moi ou c'est trop cher.
Et forcément, tout ce dont vous nous avez parlé a un prix.
Oui, c'est voilà.
Bien naturellement.
Et puis, donc, comme aujourd'hui, en plus, il y a une énorme concurrence entre maintenant, en plus, la vente sur Internet. Donc, la part du gâteau est quand même très limitée, quoi. Et puis comme moi, je voulais pas pencher, j'avais pas ni les moyens ni la volonté d'aller vers la mode industrielle, parce que bon, faut reconnaître, c'est ce qu'on dit toujours, il y a des marques même réputées, connues, quand ils fabriquent un vêtement ailleurs, je vais pas citer de pays, comme ça personne ne sera visé, mais le coût du vêtement c'est 2 euros. Alors c'est sûr qu'ils vous le vendent vous à 12, mais la personne qui fabrique à 2 euros vit dans la misère. Et moi, honnêtement, je veux pas alimenter ce genre de choses. Même si demain, là, ma marque, je l'ai un petit peu éteinte, je peux recréer des vêtements. Là, j'ai recréé dernièrement quelques pièces. Je voudrais aller vers une mode équitable. Alors, je préfère payer plus cher la fabrication. Et qu'à la fin, par contre, je sais qu'il n'y a pas quelqu'un, si on peut dire, esclave, qui fabrique mon vêtement. Là, je crois que je ne dormirais pas.
Oui, bon, c'est une question d'éthique morale. Voilà, c'est ça. C'est une question d'éthique. C'est ce que j'allais vous dire.
Et
vous
malheureusement, on s'aperçoit que les gens sont au courant de tout ça. Il y a eu des scandales, mais tout le monde continue à acheter au moins cher possible. Donc, la mode a quand même une mission universelle, malgré tout, parce que ça touche tout le monde. Mm-hmm. Donc là, même dernièrement, il y a eu des polémiques sur les mannequins, la taille des mannequins et autres. J'ai monté une asso, qui s'appelle Armode. On a formé des mannequins. Avec une forme de logique, il y en a certaines qui sont devenues mannequins professionnels, d'autres même Miss France. On ne va pas citer le nom, mais tout le monde va se reconnaître. Et il y a une éthique à avoir aussi par rapport à ce métier. C'est un vrai métier, être mannequin. On ne devient pas mannequin comme du jour au lendemain. Il faut répondre à des critères. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros fantasme. En plus, maintenant, avec Facebook, tout le monde, il est beau, tout le monde est parfait.
Tout le monde a une taille de haricot vert.
Voilà, mais dans le métier, c'est pas comme ça. Et moi, j'ai toujours conseillé, parce que dans la soirée mode, il y a eu beaucoup de filles qui ont fait du défilé. Il faut se conditionner, c'est comme un sport de haut niveau. On peut pas courir à 100 mètres si on n'a pas la capacité. Et le métier de mannequin, c'est pareil. Et toute agence responsable doit surveiller le poids de ses mannequins, qu'il n'y ait pas de mise en danger.
Et pour vous, il y a l'importance de la photographie, ou même du film.
Le tout est lié. Parce que c'est pareil, après, on retombe toujours sur des critères de beauté. Il y a eu des époques, Manet, c'était les femmes en chair, toutes rondes. Si on n'était pas comme ça, on n'était pas belle. Bon, bah, depuis les années 60, on peut dire avec la mini-jupe, bah, c'est la fille filiforme, Françoise Hardy. Et c'est resté, Brigitte Bardot, c'est des mythes, mais c'est toujours resté. Et les créateurs ont leur mythe, ont leur vision des choses. Alors, souvent, justement, on va sur les défilés. Un jour, on va tomber que sur des rousses. Moi, une fois, j'ai fait un défilé. J'arrive au coin de ma boutique, je vois arriver quatre sœurs. Quatre rousses. Exceptionnel. C'était quatre sœurs. Il y en avait une taille mannequin, et après, il y en a une plus petite, plus grande, plus forte. J'ai pris tout le monde, j'ai créé une histoire avec quatre rousses. Et les créateurs, c'est un peu ça. Mais il faut avouer que dans l'ensemble, ils rêvent de filles assez fines. Alors, il y a des marques qui sont créées pour des tailles plus grandes. Mais faut reconnaître que les créateurs vivent sur une planète. Ils ne sont pas dans le monde réel à 100%.
Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous? On pourrait peut-être donner l'adresse de votre blog.
Alors moi, j'ai monté un site, j'ai créé différents sites, parce que même en tant que créateur de vêtements, de peintures, de photos, de vidéos, en plus, je suis un passionné informatique et j'adore Internet parce que je trouve que c'est un super outil. Et j'ai créé 28vues.fr.
Donc, on peut vous retrouver sur 28vues.fr.
Voilà, on peut suivre toutes les histoires.
Voilà, et c'est une adresse que nous mettrons sur le site de Radio Grand-Ciel. Aude, je vous remercie.
Bah, c'est moi, merci pour l'écoute et de m'avoir invité.
Merci à Simon qui a réalisé la technique de cette émission. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt sur cette antenne.